Nous pourrions lire premièrement quelques versets au début de l'évangile selon Jean. Évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle aucune seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et quelques versets un peu plus loin dans l'Épître aux Corinthiens. La seconde au chapitre 5, 2 Corinthiens 5. Nous lisons quelques versets depuis le 16e. En sorte que nous désormais, nous ne connaissions personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Et enfin, quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9e. La première donc avait aussi des ordonnances pour le culte et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle fut construit, le premier qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier et la table, et la proposition des pains. Et après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance, entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et des tables de l'Alliance, et au-dessus de l'arche, des chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire. Sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment en détail. Dans ces trois passages, nous avons trois grandes vérités, ou plutôt trois grandes réalités, qui se suivent dans un ordre parfait selon Dieu. Ces quelques versets au début de l'évangile selon Jean placent devant nous l'éternité du Fils, dans le cas particulier appelé la parole, et ce qui en est advenu quand il est venu ici-bas sous la forme de Dieu manifesté en chair. Si ce fait n'avait pas été accompli, rien n'aurait pu avoir lieu. C'est la base de tout. Nous pouvons lire les Écritures d'un bout à l'autre, en passant par le chapitre 8 du livre des Proverbes, et nous aurons la clé de cela. Tout dépend de la personne de Christ. Il n'y a ni lumière, ni vie. Il n'y a rien en dehors de lui. Il est bon que nous soyons pénétrés de sa plénitude, une plénitude de Dieu, pour Dieu, une plénitude pour l'homme. et un accomplissement de ses conseils, comme aussi une introduction de ses voies. Tout dépend de lui, tout a été créé par lui et pour lui, et tout convergera vers un but, c'est qu'il sera glorifié et à l'ouïe de son nom, tous genoux se ploieront. Disserter sur la plénitude de Christ pourrait alimenter une méditation qui n'aurait pas de fin. Il est lui-même éternel, ce qui le concerne est éternel, et si nous le contemplons, ce que nous ferons une fois dans la gloire sera également le thème d'une exaltation, d'une adoration éternelle. Il est éternel en tout, tout ce qui dépend de lui, qui découle de lui et qui s'adresse à lui porte cette empreinte d'éternité. C'est déjà quelque chose de tellement grand et de tellement profond que nous ne pouvons que nous courber dans l'adoration en méditant cela. Dans l'évangile de Jean, nous avons trois étapes bien marquées. Elles se suivent dans cet ordre. Le début de cet évangile, c'est la vie. La vie qui est manifestée. La seconde, c'est la lumière. Et la dernière, l'amour. Il est évident que ces trois choses sont présentées simultanément dans les trois parties, mais dans leur caractère général, nous avons ce processus de la vie, de la lumière et de l'amour. C'est un processus divin. La vie est forcément à l'origine. S'il n'y a pas la vie, il n'y a rien. On ne peut pas demander quoi que ce soit de la mort, son opposé. La vie est à l'origine de tout. Et le secret de la vie nous est confié, elle est dans le Fils. Il est en un mot la vie. Il l'a dit lui-même lorsqu'il était ici-bas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est cela. La vie est en lui. Mais donner une description de la vie ne nous appartient pas. Elle ne se définit pas. Elle nous est présentée dans une personne qui est la vie. La meilleure description qu'on pourrait en donner, c'est Jésus-Christ. Mais des définitions humaines avec un langage le plus châtié qu'il soit, est incapable de décrire la vie. Les tentatives ont été faites dans tous les siècles, aucune n'a pu aboutir à une vraie description. Voulons-nous voir ce que c'est que la vie, regardons le Seigneur. Il est la vie. La lumière, on en donne toute espèce d'explication scientifique, nous le savons bien, mais la décrire en ce qu'elle est en elle-même, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est divin. La lumière, nous avons lu dans le début de Jean, n'est-ce pas ces paroles qui, on peut dire, se suivent dans un intérêt palpitant, mais nous serions incapables d'en donner une explication. Elles nous sont présentées et nous devons simplement les constater. Quand il est dit, dans ces premiers versets de cet évangile, donc, au verset 3, « Toutes choses furent faites par elle. Sans elle, aucune chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie. » C'est donc la parole faite chair. « En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, c'est une présentation qui se résume le plus parfaitement possible dans cette parole fixant les yeux sur Jésus. En le regardant, nous voyons la vie. nous voyons la lumière, nous voyons l'amour. En dehors de lui, nous ne voyons rien. La révélation de l'Ancien Testament, on peut dire, est éclairée par le fait que tout est image de Christ, tout est type de Christ. C'est dans la mesure où cette grande réalité typique est réalisée qu'il y a bénéfice dans l'Ancien Testament. Même les prophètes parlent de lui. Les psaumes parlent de lui. Toute l'écriture en témoignage de lui. C'est ce que nous avons au début de Jean. Une autre chose, l'amour. Il est dit de l'amour cette particularité qu'il ne périt jamais. C'est une réalité que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens, que nous trouvons dans la présentation de Christ. Elle n'est pas au début de l'évangile de Jean pour la bonne raison que là nous avons la parole faite chair, ce qui peut être contemplé, c'est précisément la vie et la lumière. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit « Je suis l'amour ». Il ne l'a jamais dit parce que l'amour, c'est l'essence de Dieu. L'essence même de Dieu. Il est dit par contre, le Saint-Esprit nous dit, Dieu est amour. C'est l'ensemble de la Trinité dans son essence. Le Seigneur a dit, je suis la vie. Il a dit, je suis la lumière. Mais l'amour, c'est toute la divinité dans son essence. Ce n'est pas un caractère, c'est ce qu'elle est. Alors, nous avons ce processus dans cet évangile, d'abord cette vie dans le parcours que le Seigneur a accompli au début de son ministère, nous avons cette lumière qui s'installe parce qu'il l'a fait briller, et finalement nous voyons l'amour qui commence à porter ses fruits dans les cœurs. Et le couronnement se trouve à la fin de l'évangile dans les deux chapitres prophétiques. C'est un évangile d'une merveilleuse élévation. Il n'épuisera jamais les investigations humaines, même quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité, est-il dit. Toute la vérité. La vérité nous est communiquée. Pourquoi est-il dit toute ? Parce que nous avons besoin de cette plénitude pour glorifier Dieu. Nous pouvons faire un rapprochement pour bien comprendre l'évangile de Jean avec le tabernacle. C'est pourquoi nous avons lu quelques versets dans les Hébreux. Il y a eu un premier tabernacle et nous savons que si le texte était traduit, ce qui ne serait pas guère possible, mais dans son sens étymologique, il serait dit que le Seigneur a tabernaclé au milieu de nous, c'est-à-dire qu'il a habité au milieu des hommes. Son ministère était non seulement une présence d'un homme sur la terre, Dieu manifesté en chair, mais c'était une habitation. Ce qui nous montre que ce que le Seigneur a fait, ce sont des choses dont les résultats sont éternels. Je n'étais pas un étranger, un voyageur à ce point de vue. Il l'était comme homme dans un autre sens, mais sous le sens divin, il y a toujours le caractère de l'éternité. Il a tabernaclé, habité, ce qui signifie un contact qui n'a pas de fin. Ceci est bien important à saisir. Dans le tabernacle, il y avait donc deux ou trois parties. Il y avait la maison elle-même, autour de laquelle il y avait le parvis ou la cour, et dans ce parvis se trouvait l'autel d'airain et la cuve d'airain. Si nous prenons l'évangile selon Jean, nous voyons le Seigneur parcourir le chemin qui était signifié dans ce tabernacle. D'une façon élevée, la plus élevée, il vient du lieu très saint à l'autel des reins. Le Seigneur est descendu du ciel pour se diriger vers la croix, le lieu du sacrifice. C'est le chemin qu'il a suivi pour venir à l'homme. Et une fois qu'il a trouvé dans ce monde des âmes qui le reçoivent comme sauveur, il en fait des enfants de Dieu, et ces enfants de Dieu sont invités à suivre le chemin inverse. Ils vont de l'autel des reins jusque dans le lieu très saint maintenant, dans l'épître aux Hébreux. Et c'est beau de comparer ces deux chemins. Il fallait que le Seigneur parcourt le premier pour que nous puissions suivre le second. Autrement, la chose n'était pas possible. Il est venu nous apporter tout le nécessaire pour que nous puissions suivre le chemin dans le sens inverse du sien. Et c'est ainsi qu'une comparaison ou un établissement comparatif entre l'évangile de Jean et le tabernacle sont des plus édifiants, des plus intéressants. Dans Jean, nous avons donc le Seigneur venant du lieu très saint vers l'homme. Le sacrifice est à la fin. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons une description de l'homme qui va vers Dieu en vertu de ce que le Seigneur nous a acquis. Et à ce point de vue, cette comparaison est bien intéressante. Entre deux, nous avons lu quelques passages de la nouvelle création. C'est ce que le Seigneur a fait pour que ces deux chemins puissent être suivis. Le premier était nécessaire, le second l'est aussi en conséquence, pour que Dieu soit pleinement glorifié. Essayons de donner une ou deux pensées pour réjouir nos cœurs sur le premier chemin. Dans l'évangile selon Jean, nous avons donc le Seigneur qui est manifesté en chair. La parole devint chair, c'est la même chose que dans 1 Timothée, au chapitre 3, le verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu qui vient et qui, sous la forme d'un homme, va parcourir le chemin. Le Seigneur, ici, nous est présenté au début de son ministère comme nettoyant le temple. Tout au début de l'évangile de Jean, il en chasse les vendeurs qui en avaient fait une maison de trafic, alors que le temple était une maison de prière. Son ministère, en arrivant dans ce monde, devait pouvoir s'accomplir sur un terrain saint, un terrain pur. Il ne pouvait pas s'accomplir sur un terrain souillé. C'est ce que cela signifie en rapport avec le côté divin. Et le Seigneur a pu ensuite cette purification. Nous comprenons bien que si le récit qui nous est donné de cette purification du temple à Jérusalem était matériel, le sens en est divin, en est spirituel, pour nous. Le Seigneur est venu ici-bas comme fils de Dieu, il est l'envoyé de Dieu dans Jean, et nous savons que à la sortie du baptême, il a été scellé du Saint-Esprit. C'est la première fois du reste que nous voyons le Saint-Esprit demeurer sur un homme. Et le premier homme qui a eu cette onction, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et il commence un ministère sur un terrain qu'il a nettoyé, purifié le temple. Dans les trois autres évangiles, cet acte est à la fin de l'évangile, des trois, tandis qu'ici c'est au début, parce que son ministère a le caractère céleste. Sa première rencontre dans le chapitre 3 avec Nicodème manifeste la vie. Nicodème lui dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est le grand sujet de la vie. Nicodème, docteur de la loi, réalisait bien qu'il n'avait pas la vie. Que dois-je faire pour avoir la vie? C'est la grande question. C'est la question de tous les hommes, et en particulier des hommes religieux, des personnes religieuses, qui ont devant elles, sur le cœur, ce besoin de connaître la vie, le chemin qui y conduit, et la certitude de la posséder. Et si nous lisons attentivement tout le récit, nous voyons que le Seigneur donne les jalons de tout cela. Dans les quelques mots qui sont échangés, tout s'y trouve. Mais au point de vue divin, au point de vue divin, dans tout l'évangile de Jean, c'est le côté divin. Un peu plus loin, il rencontrera la Samaritaine, avec laquelle il va donner les jalons du culte, de l'adoration. Et c'est complet. Quelques mots suffisent pour donner les jalons du culte, le service le plus élevé, le plus élevé. Et le Seigneur, en accomplissant tout cela, remarquons-le, est entré dans un monde qui était sous le régime de l'ancienne création. Et cette ancienne création est typifiée par le parvis dans le tabernacle. Alors nous essayerons de faire une comparaison à mesure que nous avançons. Il était dans le parvis. Et dans ce parvis, le Seigneur a avancé d'une manière merveilleuse, s'occupant de l'homme dans son bas état, lui ouvrant le chemin de la vie, l'éclairant au point de vue spirituel dans ses futures relations avec Dieu comme adorateur. Et si nous continuons, ce sont des guérisons, ce sont des attouchements qui délivrent, ce sont, en un mot, tous les actes qui se résument en ceci, c'est qu'après avoir vaincu l'ennemi à la tentation, il le dépouille de ses biens. Ce que l'apôtre Jean, dans sa première épître, dira, qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. On envisage assez rarement le fait que le Seigneur était aussi venu pour détruire. On aime, et je pense que c'est une raison valable, à le considérer comme un constructeur plutôt. Mais il fallait aussi qu'il détruise. Il a détruit l'ennemi et sa puissance. Il a détruit la mort, cette forteresse de l'ennemi. Il a détruit toute l'organisation de l'ennemi qui s'acharne contre la créature de Dieu. Il est venu et il a été vainqueur dans la destruction comme dans la construction. Et nous avons alors, toutes les fois que le Seigneur chasse un démon, qu'il guérit un aveugle, un lépreux ou des malades de toutes sortes, cette destruction de la puissance de l'ennemi. Et nous avons ce grand révélation dans ce passage que le Seigneur, n'est-ce pas, a libéré ou il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient durant toute leur vie dans cette crainte. Et cela venait de l'ennemi. Il y a une grande délivrance à cet égard. Et cela se passe dans le parvis, c'est-à-dire dans ce monde. L'œuvre de la rédemption, tout entière, l'œuvre, pas ses conséquences, mais l'œuvre de la rédemption tout entière, a été accompli dans le monde, c'est-à-dire ce qui est typifié dans le parvis du tabernacle. C'est la première étape. Les sacrificateurs offraient des sacrifices sur l'autel des reins dans le parvis. Et dans ce parvis où se trouvait l'autel, nous avons les quatre sortes de sacrifices sur lesquels nous avons déjà eu l'occasion de nous arrêter, je n'y reviens pas. Mais il représente, nous le savons, l'œuvre parfaite de Christ. Depuis le sacrifice pour le péché, la croix qui nous sauve, jusqu'à l'Holocauste, ce que nous trouvons dans les chapitres 18-19 de cet évangile de Jean, l'Holocauste, quand le Seigneur s'offre comme victime. Il s'offre pour la gloire de Dieu dans ces chapitres. Tandis que plus loin, c'est pour sauver sa créature. Tout cela est bien ordonné et c'est bienfaisant et combien merveilleux de le remarquer dans les Écritures. Dans le parvis, il y avait encore la cuve d'airain. Cette cuve remplie d'eau, où les sacrificateurs devaient se laver mains et pieds pour entrer dans le tabernacle afin d'y accomplir leur service. C'est toute l'œuvre de la parole de Dieu qui nous purifie pendant tout notre pèlerinage afin que nous soyons maintenus dans une communion avec le Seigneur qui nous permette de l'adorer comme il convient. On ne se présente pas devant Dieu comme adorateur sans avoir passé à la cuve des reins. Les reins nous parlent toujours du péché ou de la justice de Dieu contre le péché. Et cette cuve des reins dans le tabernacle avait été faite, fondue avec les miroirs des femmes. Cela nous est dit dans l'Ancien Testament, et ce n'est pas pour rien que ce fait nous est dit. Et quand les sacrificateurs s'approchaient de cette cuve, ils se voyaient, elles reflétaient leur image. C'est la même chose pour nous, la parole de Dieu est un miroir dans lequel nous nous voyons, et il nous révèle ce qu'il y a de taché et ce qu'il faut purifier. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens 11, nous avons que chacun s'éprouve soi-même. Mais remarquons ce qui est dit après, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange, ce qui signifie la communion. On ne s'éprouve pas pour s'abstenir, mais pour pouvoir manger, c'est-à-dire que si l'on se juge, si l'on éprouve notre marche et qu'on confesse éventuellement des déficiences, c'est pour être en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres, ce n'est pas pour s'abstenir. La parole ne se trompe jamais dans ses expressions. Et qu'ainsi il mange, c'était la cuve des reins dans le tabernacle. Tout ceci se fait dans le monde, mais la communion, elle revêt, malgré que nous sommes dans le monde, un caractère céleste. Cela correspondrait dans l'évangile de Jean au chapitre 13. C'est la cuve des reins, le chapitre 13. Il a plusieurs significations, ce chapitre, et en particulier ce que le Seigneur a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples. Mais la vraie signification, nous savons bien que c'est une purification pour avoir part. Si je ne te lave, dit le Seigneur à Pierre, tu n'as pas de part. Il faut être pur pour être en communion. Confesser les déficiences de notre pèlerinage pour jouir de la communion. Et la jouissance vient de l'approbation du Seigneur. La confession elle-même ne peut pas produire de joie. Ce qu'il a produit, c'est l'approbation du Seigneur. Quand nous réalisons que le Seigneur nous approuve, eh bien alors c'est la joie qui déborde du cœur, la communion est réelle. C'est ce qui correspond donc dans le parvis, à la cuve des reins. Ensuite, le Seigneur, si nous le prenons, lui qui était dans le parvis, c'est à la fois la victime et le sacrificateur quant à l'autel des reins. Il manifeste la nécessité de la cuve dans Jean 13 par cette purification. Ensuite, nous avons dans les chapitres 14 et ailleurs où il parle de la maison. Il parle de la maison. Et qu'est-ce que cette maison? c'est l'endroit où on entre dans l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu. Lui en est venu. Il nous y conduit. Il a dû venir pour nous y conduire. Il est venu nous chercher où nous étions, dans notre bas état, et veut élever les siens avec les nobles de son peuple. Et c'est ainsi qu'il entraîne les siens, il les conduit dans la maison. Nous savons bien que dans Jean 14, il y a un sens prophétique, « Je reviendrai, je vous prendrai », etc. Cela signifie aussi sa venue. Nous n'ignorons pas la chose, mais dans le sujet qui nous occupe, quant au chemin parcouru, typiquement, nous avons dans l'introduction dans la maison l'enfant de Dieu qui, jouissant de la communion parce que purifié à la cuve, il peut entrer dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, là, nous trouvons la lumière, seconde étape de l'évangile selon Jean. Et dans cette lumière, qu'est-ce qui résulte de ce fait? Le chandelier était placé vis-à-vis du voile. C'est la découverte de toute la beauté du Seigneur. Le voile reflète sa beauté. Les couleurs, l'or qui était tissé avec la laine, avec le fin coton retors, comme aussi les chérubins qui étaient sur ce voile, tout cela manifeste sa divinité, son humanité, sa grandeur, sa beauté, sa valeur. C'est ce que montrait le chandelier en tout premier lieu. En entrant dans le lieu saint, les sacrificateurs voyaient ce magnifique voile éclairé par le chandelier. Un chandelier à 6 branches, lumière parfaite. Il illuminait aussi de chaque côté 2 objets, d'un côté l'autel d'or, qui nous parle de Christ, souverain sacrificateur, dans un sens prophétique, mais dans le tabernacle, c'était le lieu de l'intercession et de l'adoration. Et de l'autre côté, la table des pains, nourriture. Nourriture ou toutes les ressources pour la marche dans ce monde. Le tabernacle était dans le désert, mais dans la maison, il y avait des secrets pour ceux qui avaient le bonheur d'y entrer. Et maintenant, tous les croyants sont sacrificateurs. Tous nous avons accès dans ce lieu. Et toutes ces bénédictions sont notre part. Si nous pouvions les mesurer, certainement que nous ne taririons pas de louanges et d'actions de grâce. Mais nous en aurions des raisons, et des raisons profondes. Le voile, maintenant, nous le savons, est déchiré. Ce magnifique voile a été déchiré. Type de la chair de Christ, et maintenant le lieu très saint est visible. Quand le fait s'est produit, ce dut être un moment extrêmement solennel pour le sacrificateur. En lisant attentivement l'Ancien et le Nouveau Testament, nous arrivons à discerner qu'il s'est déchiré au moment où le sacrificateur entrait dans le lieu saint. Les yeux étaient donc portés vers le voile, c'était la face opposée de l'entrée, illuminée par le chandelier, et quand le Seigneur a expiré sur la croix, c'était la 9e heure, et c'est à cette heure-là qu'on offrait les parfums. Le sacrificateur entrait, il a vu se déchirer ce voile. Depuis le haut jusqu'en bas. Et pour la première fois était visible l'arche de l'Alliance. Ceci doit toucher profondément nos affections pour le Seigneur. Quand il viendra et que nous le verrons, ce sera quelque chose dont nous ne pouvons donner aucune description. Comme nous ne pouvons pas sonder ce qui s'est passé dans le cœur du sacrificateur à ce moment-là. Ce fut certainement un émerveillement. Le lieu très saint était tout d'or, et pour la première fois, il était éclairé par le chandelier, parce qu'il n'avait pas d'ouverture autrement. quel éclat a dû produire cette lumière sur tout cet or. Des chérubins d'or, un propitiatoire d'or, une arche d'or, tout était d'or, et tout devait reluire, manifestant ainsi que la justice divine était satisfaite, typiquement présentée. Quelle gloire, n'est-ce pas? Quelle chose divinement belle. Et tout ceci s'est passé dans le tabernacle, et si nous lisons ces quelques versets dans les Hébreux, nous discernons que dans le lieu très saint, il est ajouté l'encensoir, qui normalement était dans le lieu saint. Pourquoi est-il mentionné là? Parce que le voile étant déchiré, il n'y a plus qu'une seule pièce. Et cet encensoir étant le type de l'adoration, parce qu'il s'en dégageait un parfum suave, l'adoration retentira dans tout l'univers, quand le Seigneur viendra chercher les siens. Ce sera une louange qui résonnera dans tout l'univers. Nous avons cela dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. L'agneau exalté sera exalté par des voix multiples, des myriades de myriades, quand il est dit « digne l'agneau » qui est au milieu du trône, comme un agneau qui a été immolé. Cette louange est sans précédent. Elle n'a jamais été aussi universelle. Le voile est déchiré, le parfum de l'encensoir se répand partout. C'est quelque chose de touchant. Pour nous, tout cela nous est déjà révélé ici-bas. Et le Seigneur, typiquement dans cet évangile de Jean, jusqu'au chapitre 17, c'est-à-dire où se termine en somme son voyage dans le monde, jusqu'au chapitre 17, il est dans le parvis. Il est dans le parvis, il entre dans la maison typiquement, parce qu'il veut y introduire les siens, et dans le chapitre 17, nous trouvons la triple unité, couronnement de la divinité ou de la Trinité. Nous y trouvons également, dans ce chapitre 17, la perfection des relations, et l'unité divine qui se confond avec les rachetés. Ce sont les trois grands sujets de Jean 17. Un entretien du Seigneur avec son Père, on pourrait le résumer ainsi, comme s'il disait à son Père, « Maintenant, tes merveilleux conseils sont tous accomplis. » Il se place dans ce chapitre au-delà de la croix. Il anticipe, pour ainsi dire, le pas sur la nouvelle création. Et maintenant, nous avons la joie du Père et du Fils qui se mélangent. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Cette unité divine pour la réalisation de la beauté et comme aussi de la gloire des conseils de Dieu pleinement accomplis. C'est l'évangile de Jean. Quelle merveille que cet évangile. Dans les entretiens, si nous entrions dans les détails, on pourrait suivre la vie, la lumière et l'amour. L'amour est spécialement manifesté au chapitre 13, qui commence avec ces paroles magnifiques. Jésus ayant aimé les siens, c'est l'amour éternel, les aima jusqu'à la fin, tout le long de son ministère de rédemption, de rédempteur, jusqu'à la fin, et ses derniers mots sur la croix. Après avoir prié pour son peuple et son premier mot sur la croix, nous savons qu'il a dit l'avant-dernière parole s'est accomplie. Comme scellant une œuvre étant parfaite sur laquelle il n'y aura jamais durant l'éternité quoi que ce soit à ajouter pour la gloire de Dieu et pour le bonheur éternel de toutes les créatures. C'est accompli. Et le tout dernier mot, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est la détermination du Fils manifestant sa divinité. il disposait de sa vie dans sa longueur et dans sa valeur. Si nous en venons maintenant pour ce qui nous concerne, quelques mots sur cette partie de 2 Corinthiens 5, dans le verset 17 et 18, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, toutes choses sont faites nouvelles, toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et nous a donné le service de la réconciliation. Savoir, voilà ce que c'est que le service de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Ici, ce n'est pas seulement le salut des pécheurs, c'est la réconciliation en rapport avec le monde. Autrement dit, la création elle-même participe à la rédemption, ce qui nous est donné dans Romains 8. La création actuelle, l'ancienne création, soupire. Elle soupire. Après quoi soupire-t-elle? Elle soupire après la manifestation des enfants de Dieu, c'est-à-dire lorsque le Seigneur viendra prendre les siens. C'est à sa venue que la création aura, comme on l'a dit, un soubresaut pendant les 7 années de la grande tribulation, mais après lesquelles il y aura l'ère bénie millénaire. Voilà après quoi soupire la création. Et ici, nous avons non seulement le salut des pécheurs, mais aussi cette réponse au soupir de la création, ce que nous avons donc dans Romains 8. Ceci dit en passant, mais alors ce que nous voulons remarquer, c'est qu'il y a une ancienne création et une nouvelle. Faisons une petite remarque en passant qui peut être utile. Beaucoup de traducteurs ont mis celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La créature est autre chose que la création. Le traducteur dont nous avons la faveur de posséder l'ouvrage ici a bien mis celui qui est en Christ est une nouvelle création, pas une nouvelle créature. Une créature de plus ou de moins ne changeait rien à la question. Il fallait changer la base de ce que Dieu avait créé. L'ancienne création est perdue, elle est condamnée, elle sera, nous le savons, destinée à la destruction par le feu. L'ancienne création dont l'homme en Adam fait partie. Mais qu'est-ce que la nouvelle création? C'est une chose que Dieu fait sans prendre un atome à la vieille création. Il n'a pas besoin de la vieille pour faire la nouvelle. C'est là le fond de la pensée. Une création en rapport avec Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'est pas. C'est tout autre chose qu'une créature qui nécessite toujours une chose qui a précédé, tandis que là, il n'y a rien à précéder. Il nous fait participer à sa nature. C'est cela la nouvelle création pour nous. Quant au Seigneur, on peut dire qu'il a terminé, il a mis un point final à la vieille création quand on l'a mis dans le tombeau. C'était le point final de l'ancienne création. Il avait pris sur lui cette charge dont nous ne pouvons comprendre l'énormité de cette condamnation et de l'homme dans le péché, et de la vieille création que Dieu veut détruire. Dieu ne raccommode pas. Il fait toujours du neuf, parce qu'il est créateur. Et l'homme, le croyant, ce n'est pas une amélioration de sa vieille nature, ce que signifierait qu'il est une nouvelle créature, c'est une création nouvelle. Dieu ne prend rien du vieil homme, pour constituer le nouvel homme. Si ces deux natures coexistent, elles sont tout à fait indépendantes dans leur origine et dans leur destinée. Et pour bien comprendre, gardons jalousement la traduction que nous avons qui est si fidèle. C'est une nouvelle création. Et en cela, nous pouvons le bénir. Et quand s'est ouverte la nouvelle création, au point de vue de l'univers, de l'ensemble des conseils de Dieu, quand le Seigneur est sorti du tombeau, il a ouvert l'ère de la nouvelle création. La vieille est restée dans le tombeau. Elle est destinée, elle est scellée par ce mot « mort ». Il est sorti de là, et en sortant de là, c'est l'aube, c'est le commencement de la nouvelle création. Et il en dépendra après l'ère millénaire, après, lorsque Dieu voudra être tout en tous, il en dépendra des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Résultat de l'œuvre de la rédemption. Ce ne sera pas seulement l'accomplissement du soupir de la création dans Romains 8, ce sera une chose nouvelle, tout à fait nouvelle, et nous voyons que les relations et les moyens de relation dans la nouvelle création sont totalement différents. Il n'y a plus d'intermédiaire, Dieu lui-même est le temps. Je ne veux pas aller plus loin dans cette présentation, mais les bases, je crois, suffisent pour nous en décrire la différence qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle. On peut dire qu'il n'y a aucune ressemblance. Ce sont des choses nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles. Il est bien dit, remarquons-le, toutes choses sont faites nouvelle. En ce qui concerne l'homme qui participe à la nature divine, il est une création nouvelle. Qu'il s'agisse de ses œuvres, celles qui sont vieilles sont passées, elles seront brûlées, Dieu en créera des nouvelles, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si l'ancienne création sera maintenue pour le millénium, c'est parce qu'elle est l'accomplissement des promesses de Dieu faites à un peuple terrestre, Israël. Dieu se doit d'accomplir ses promesses. Il a promis à Israël que le Messie viendrait, qu'il régnerait et que ce serait un règne de justice. La justice régnera, et cela pendant 1000 ans. Fidèle à ses promesses, Dieu fera cela. Mais après cela, alors quelque chose qui est hors promesse, mais qui est révélation, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre, correspondant à l'homme qui, pour Dieu, est une nouvelle création. Ils ne sont pas des choses que nous méditons souvent, mais qui nous paraissent tellement utiles pour nous attacher au Seigneur, pour nous montrer sa grandeur, sa beauté. Si nous nous sommes engagés dans une présentation peut-être un peu élevée et un peu concentrée, prenons pour terminer quelques points pratiques, permettez-le-moi, sans vouloir revenir sur quelque chose qui ne rabaisse pas, mais qui nous le fait réaliser dans notre mesure. Si le Seigneur nous conserve ici-bas, c'est pour une raison, ou peut-être même pour plusieurs raisons. La raison principale, il laisse les enfants de Dieu sur la terre. Il pourrait très bien prendre dans le ciel tous ceux qui se convertissent. Il n'y aurait ainsi jamais de témoins et jamais de témoignage ici-bas. Et c'est de pas cela qu'il veut. Nous avons, pendant que le Seigneur juge bon d'attendre, jusqu'à ce qu'au dernier appelé soit arrivé, il juge bon d'avoir ici-bas un témoignage. Ce témoignage est constitué de tous les témoins réunis. Et comme l'homme a désobéi à cette grande pensée de Dieu, et que la chrétienté est fractionnée à l'infini, le principe de Dieu demeure. Et le principe de l'unité du corps demeure. Dieu ne renonce pas à cela. Et il reconnaît comme son témoignage, nous disons bien son témoignage, qui se constitue donc d'un ensemble de témoins, il reconnaît ceux qui se réunissent sur le terrain de l'unité. Il n'y a pas d'autre témoignage. Il y a beaucoup d'autres chrétiens, mais il n'y a qu'un témoignage. Et ce témoignage est reconnu de Dieu par une chose miraculeuse, on peut dire, c'est que ce témoignage, dans cet ensemble de chrétiens réalisant l'unité du corps, sont revêtus de l'autorité du Seigneur parce qu'il les reconnaît comme étant ses représentants, si l'on veut employer un mot, il les reconnaît pour leur donner le droit de prendre des décisions en son nom. C'est là l'autorité dont l'Assemblée est revêtue. Elle n'est pas une autorité, parce que si elle l'était, elle serait un tribunal. Elle est revêtue de l'autorité du Seigneur pour prendre des décisions en son nom. Elle est comme un fondé de pouvoir. Et c'est cela le témoignage dans le monde. Les témoins sont appelés, chacun de nous en particulier, à témoigner individuellement pour le Seigneur dans toute notre vie. Mais quand nous sommes réunis autour de lui, nous sommes constitués le témoignage. Et le témoignage se réalise pour le cœur de Dieu spécialement quand nous sommes réunis pour l'adoration. Pour l'adoration. Et cette adoration, nous en avons dit deux mots déjà, je n'y reviens pas, mais devrait remplir nos cœurs, devrait ouvrir nos bouches afin que nous exaltions celui qui est digne de l'être, digne de l'être, comme des ambassadeurs apportant le message de louange pour tous les bienfaits reçus par d'autres, être la voix de tous les rachetés qui malheureusement ne sont pas là. Est-ce que nous sommes conscients quand nous sommes réunis le premier jour de la semaine, le matin, que nous sommes peut-être un îlot au milieu de la chrétienté, ceci sans aucune prétention, mais sous l'angle de la responsabilité. Nous sommes les porte-voix de l'adoration de tous les croyants, de tous les ignorants qui ne le font pas parce qu'ils sont ignorants. Mais si la grâce est faite à quelques-uns de comprendre ce que c'est que le culte, c'est un honneur d'abord, c'est aussi une responsabilité dans ce sens de l'accomplir, prenant sur nos cœurs tous les rachetés, tous les ignorants qui ne le font pas par ignorance, être le porte-voix de tous et donner à Dieu ce qui lui revient, lui apporter ce qui lui revient. Un frère donnait cette image de celui qui, au milieu d'Israël, était allé pour quêter parmi tout le peuple et apporter ce qu'il avait récolté au roi. C'est bien le rôle du témoignage. En louange, en adoration. Et il y a ce qui découle aussi de la présence du Seigneur, c'est-à-dire l'édification, l'exercice des dons qui n'appartiennent pas à ceux qui les ont reçus, mais qui sont donnés pour l'Assemblée. Le véritable propriétaire des dons, c'est l'Assemblée. Et celui qui le possède doit l'exercer pour le bien de l'ensemble, à ce point de vue. Il y a aussi la réunion de prière, mais un groupe de croyants réunis sur le terrain d'unité du corps pour prier, c'est une puissance incalculable. Si nous réalisons bien cette unité, si tous les cœurs vibrent à l'unisson pour apporter au Seigneur des besoins bien compris, des besoins bien sentis qui exercent le cœur. Une réunion de prière, on l'a dit, ce serait une dynamite dans la localité où se réunit ce témoignage. Rien ne pourrait lui résister en vertu des promesses que le Seigneur a faites. Nous avons donc, au point de vue pratique, ces trois points, l'adoration, l'édification et la prière. Au point de vue doctrinal, c'est ce que nous avons vu au début de cette rencontre, et ceci doit travailler nos cœurs en hauteur pour nous élever à ce qui est divin, travailler nos cœurs en largeur pour nous stimuler au témoignage individuel et collectif, un témoignage en profondeur pour réaliser ce qu'est vraiment l'Assemblée de Dieu. C'est ici-bas certainement ce qu'il y a de plus précieux pour le cœur de Dieu, ce qu'il y a de plus redoutable pour l'ennemi, ce qu'il y a de plus, on peut dire, de plus bienfaisant pour un enfant de Dieu qui a le privilège d'avoir réussi par conduit jusque dans cet endroit où le Seigneur a promis sa présence, où il a commandé la bénédiction.
Oh. Dieu aussi.